Chapitre 8. Sans que je m'en aperçoive, mercredi après-midi est arrivé. David Ferry avait dit 14 h devant la caserne des pompiers. Je savais vaguement que la caserne se trouvait sur la route qui mène au port. Ce n'était pas très loin de chez moi. Je suis arrivé un peu en avance, mais David était déjà là. Il ne m'a pas vu arriver. Cela m'a laissé l'occasion de l'observer discrètement. Il portait un jean, un pull blanc à capuche et des baskets. Panoplie passe-partout du collégien. Sauf qu'il était tellement grand et baraqué qu'on aurait presque pu le prendre pour un lycéen. Il me semblait le regarder pour la première fois, alors que je le côtoyais depuis le début de l'année scolaire. Je me suis approchée de David. Il m'a vu. Il m'a dit « Salut !» J'ai répondu « Salut !» Voilà, on avait fait le tour de ce qu'on avait à se dire. Comme c'était un peu gênant de se regarder, on a contemplé nos pieds, en silence. Au bout d'un moment, qui m'a paru une éternité, j'ai entendu sa grosse voix qui proposait « J'habite dans l'immeuble là-bas, au fond. J'en profite pour te faire visiter la caserne ?» J'ai hoché la tête et je l'ai suivi. La caserne était énorme. On est passé à côté d'un hangar où des camions rouges attendaient sagement. Il y en avait un avec une grande échelle accrochée au toit, deux fourgons sur lesquels était dessiné un téléphone avec les nombres 112 et 18, du rouge partout, des bandes jaunes phosphorescentes, des gyrophares bleus. J'avais soudain l'impression d'avoir de nouveau 5 ans et de faire « pin, pon, pin » devant mes playmobiles de pompiers. Je suppose que j'avais le même regard émerveillé, sauf que je n'étais pas accroupie devant des jouets, mais qu'il me fallait lever la tête et que je me sentais toute petite devant ces grands engins. David me montrait du doigt à chaque endroit. « Là, c'est la salle de sport. Les sapeurs-pompiers doivent s'entraîner souvent, tu sais. Là, c'est la pièce où ils se reposent pendant leur garde. Et là, le bâtiment où est rangé l'équipement. » Pendant qu'on allait d'un lieu à l'autre, David croisait des hommes en bleu marine, avec une ligne blanche au niveau des épaules et des mollets. Chacun ne manquait pas de le saluer d'un « Bonjour David, comment ça va ?» David connaissait tout et tout le monde. À croire qu'il était chez lui, j'étais terriblement impressionnée. David a paru lire dans mon esprit. « Mon père est le commandant de la brigade, j'ai quasiment grandi dans la caserne, tu sais, surtout après la mort de ma mère. » Je ne savais pas que David n'avait plus de mère. Je me suis sentie bête tout à coup. J'ai dit « Ah !» Puis un truc qui ressemblait à « Désolé ». Heureusement, il ne m'a pas laissé m'enfoncer davantage. Il m'a désigné un homme en t-shirt qui était en train de nettoyer au jet une combinaison de plongée. « Salut Tom, tu reviens d'intervention ?» David s'est tourné vers moi. Il m'a expliqué que Tom faisait partie de la section de sauvetage aquatique et que la plupart de ses interventions se passaient en mer. Un large sourire s'est dessiné sur les lèvres du dénommé Tom. Celui-ci paraissait exténué et en même temps très apaisé, presque joyeux. « Tu devineras jamais qui on a sauvé aujourd'hui. » L'espace d'un instant, plein d'images me sont passées devant les yeux. Une maison en flammes, des enfants criant par la fenêtre. « À l'aide !» Le valeureux Tom grimpant sur une échelle interminable. Bref, la scène typique d'un de ces téléfilms qui passent l'après-midi sur les chaînes de la TNT. On nous a appelés ce matin car il y avait un dauphin échoué à la laisse de la marée haute. Un dauphin ? J'ai écarquillé grand les yeux. Tom a continué son récit. Le dauphin était resté au sec pendant 6 heures. Heureusement qu'il a plu cette nuit. Cela a permis de le garder humide. Visiblement, c'était un tout jeune. Il n'avait aucune blessure. On s'y est mis à plusieurs et on l'a remis à l'eau. J'ai nagé avec lui. Vraiment ? T'as nagé avec le dauphin ? David paraissait aussi surpris que moi. « Oui, c'était magique, mais le dauphin était complètement déstabilisé. Il tournait en rond et fonçait sur les rochers. Alors on a décidé de le remettre à l'eau en pleine mer. Mais comment avez-vous fait ? On l'a chargé sur un brancard, puis on l'a mis dans le 4x4, on a roulé jusqu'au port et on a pris le bateau. T'aurais vu comme il avait l'air heureux quand il a retrouvé la pleine mer. Il a nagé en surface, puis a plongé. Il est ressorti 20 mètres plus loin, comme pour nous faire signe et nous remercier. C'était fantastique. » Tom avait les yeux qui brillaient, mais je crois que mes yeux brillaient encore plus. Je ne savais pas que les pompiers faisaient des sauvetages en mer. Naïvement, je croyais que les pompiers ne servaient qu'à éteindre des feux et à aller chercher des petits chats coincés dans les arbres. J'avais 1000 questions à poser. J'ai commencé à assaillir Tom avec mes « pourquoi » et mes « comment ». David et Tom se sont regardés. Ils ont rigolé. David a expliqué qu'on devait faire un exposé pour l'école. Tom a dit qu'il serait ravi de nous en apprendre plus sur son métier. Je n'avais pas vraiment réfléchi à des questions, mais elles sont venues toutes seules. En quoi consiste le sauvetage en mer ? Quel est l'équipement ? Que faut-il faire pour devenir pompier ? Comment sont organisées les gardes ? Tom m'a interrompu. « Attends, j'arrive pas à suivre. » Alors, Tom a posé son tuyau. On s'est assis tous les trois sur un muret, j'ai sorti un stylo et mon cahier d'école, et on a tout repris, question après question. Je gribouillais comme je pouvais dans mon cahier, peinant à tout noter. Je voulais tout savoir, tout comprendre, et me souvenir de tout. Tandis que je prenais péniblement des notes, je me disais que je ferais une bien piètre journaliste. Mais en même temps, tandis que j'écoutais Tom nous parler de son métier, je me disais que je me voyais plutôt bien dans l'uniforme de pompier. Et pas seulement parce que le casque me permettrait de cacher ma volumineuse chevelure.